on va prendre d'abord la question numéro 1. Donc, selon votre expérience, quels vous semblent aujourd'hui les points forts, les réussites de l'école maternelle ? Donc, comme Patrick l'avait dit ce matin quand il avait donné la consigne, ce qui a fait un peu consensus dans votre groupe, le plus tôt partagé et le plus tôt en débat, ce qui a besoin d'être discuté, soit par opposition, soit par rapport au fait qu'il faut approfondir la question.
Le but est effectivement qu'on fasse de ce moment un moment de mise en commun. Et donc, on va essayer, chaque groupe va essayer de faire l'effort de concision, on va essayer de pas trop commenter, mais par contre, on en fait bien un petit moment de mise en commun. Je prends des notes au tableau et chacun est fondé à me dire que ce que je note n'est pas ce que la personne a dit et me demander de corriger. Et il va de soi que nos deux intervenantes ont la priorité pour dire ce qu'il leur semble légitime et nécessaire de dire à ce moment-là, dans cette interaction pas excessivement organisée. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole.
Alors, on a noté par rapport à la première question que l'hétérogénéité était... c'est pas ça, c'est dans la deuxième. Alors, dans la première, on a mélangé un peu, nous, en fait. Voilà, c'est plutôt dans la deuxième, l'hétérogénéité. Ce qui faisait consensus aussi, c'est dans la difficulté, en fait, plus que dans les points forts, le nombre important d'élèves par classe... le manque de formation aussi était soulevé, et évidemment la difficulté à enseigner la langue. Et en fait, par rapport aux points forts et aux réussites de l'école maternelle, ce qui faisait plutôt controverse pour nous, c'était l'innovation pédagogique.
C'est dans les points forts que je marque ça, c'est ça ?
C'était dans une réponse les points forts et les réussites de l'école maternelle, mais pour nous... Elle fait débat.
Tu peux préciser les termes, du coup, du débat ?
Eh bien, parce qu'on se demandait si, véritablement, il y avait forcément innovation pédagogique à l'école maternelle. On parle de l'innovation pédagogique à l'école maternelle, mais est-elle aussi présente qu'on le dit ? Alors, le travail en équipe aussi, pour nous, était une controverse, parce que y a-t-il véritablement travail en équipe ? Alors c'est toujours dans le même registre de l'innovation pédagogique, on le dit, mais y a-t-il vraiment ? Les ateliers aussi, l'organisation d'ateliers, pose une controverse. Alors la préparation à l'école élémentaire, donc c'était plutôt une controverse aussi.
Toujours dans les points forts ?
Oui.
C'est-à-dire, il semble, certains collègues disent que ça prépare bien à l'école élémentaire, et du coup, vous dites...
Voilà. Est-ce que l'école maternelle est là que pour préparer à l'école élémentaire ?
Oui, la question de l'accueil faisait aussi un peu poser question. À la fois parce que l'école maternelle est un lieu d'accueil, et aussi parce que c'est difficile d'accueillir tous les enfants, accueillir les 2 ans, accueillir le handicap. Donc c'était une question. Beaucoup de questions autour de l'évaluation. D'un côté, on dit qu'elle est indispensable par rapport à la problématique des apprentissages. Et de l'autre côté, comment faire pour... qu'est-ce que ça veut dire évaluer, d'abord, par rapport à...
Mais du coup, excuse-moi, je le mets juste un point d'ordre pour moi. Je le mets dans les difficultés des enseignants.
Oui, entre autres.
Et donc, ça fait débat ou c'est fait consensus que ça soit une difficulté ?
Ça fait un vrai débat. Et c'est sans doute une difficulté, mais c'est un vrai débat. Parce qu'on trouve aussi des éléments dans les témoignages qui disent que c'est quelque chose d'utile. Donc, voilà. On est toujours dans les deux versants, en fait. Sur le principe, c'est acceptable. Et sur le comment faire, on est en panne. Et puis, on avait aussi une question qui probablement est liée à la préparation à l'école élémentaire, primarisation, propédeutique... autour de ces questions du devenir élève. Est-ce qu'on a fini de devenir élève quand on entre au CP ?
Est-ce qu'on a à peu près clos sur votre groupe ? Je vous rappelle que la consigne de me reprendre quand je note pas correctement ce qui a été dit est valable. Alors, maintenant, donc, les autres groupes qui est traité, soit la question 1, soit la question 2, je vois tout de suite que votre groupe a décidé que les points forts de l'école maternelle n'étaient pas vraiment dégagé là unanimement. Il n'y a pas de choses qui vous sautent aux yeux comme étant.
Alors nous travaillons sur la question 2 et la question 3. Donc on avait trouvé que parmi les réponses qui ont été données et ce qui faisait consensus sur la question 2, voulez-vous que je n'ai pas la peine que je la redonne hein, de toute façon, puisque c'est les difficultés à quelles difficultés sont confrontés les enseignants de l'école maternelle. On en a retiré 3. La primarisation, ce que vous avez dit, de toute façon c'est les 3 mêmes, hein, mais nous on les a plus marqués. La prise en compte du jeune élève avec son hétérogénéité, et puis le langage. Donc voilà les 3 points.
Excusez-moi, donc ça je le mets dans la colonne partagée.
Consensus.
Vous allez voir, je suis assez besogneux hein, quand oui, je travaille, oui. Mais c'est parce que j'aime bien les précisions.
Ça veut dire que nous, on a fait cette lecture, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait consensus dans toutes les réponses.
Oui, oui.
Ça ne veut pas dire que nous...
C'est la consigne.
Alors, on avait bien, on s'était dit aussi que parmi tous les gens qui ont répondu à ce questionnaire, certainement que ce qui va faire difficulté, peut-être que ça aurait été évoqué si on avait approfondi un peu plus la question ou si on y avait pensé au moment où les gens étaient en train de répondre à ce questionnaire.
Donc il y avait 2 choses, j'en ai noté que... Pardon, tu as dit 3 choses, primarisation, langage et
hétérogénéité, prise en compte de...
Donc ça,
de...
on l'a déjà, donc je ne la remets pas. Ok.
Voilà. Alors, ce qui faisait obstacle pour nous, c'était l'image de l'école, c'est-à-dire comment les enseignants de maternelle ressentent-ils le regard de sur leur travail. Il y avait le rôle des parents. Et puis, la troisième chose, c'était le contenu didactique, c'est-à-dire comment les contenus en formation, comment ils s'appropriaient les différents domaines, les enseignants, la formation des enseignants. Par exemple, il y avait comment passer d'une logique d'activité à une logique d'apprentissage, et s'il n'y a pas de formation didactique, comment le traduire à la mise en œuvre. Ça revient à ce que vous avez dit, comment faire, quoi. Comment faire une mise en œuvre par rapport au programme, aux attendus.
J'ai juste un petit problème pour savoir où je mets les choses que tu dis, qui sont passionnantes, mais je ne sais pas les mettre dans mon tableau. Donc peut-être que mon tableau n'est pas du tout adapté.
Ce qui faisait débat.
Toujours sur
ce qui a fait débat, c'est-à-dire qu'on a... On a trouvé que c'était pas assez, ça faisait pas consensus, alors que pour nous c'est quelque chose qui paraissait important.
C'est pas cité. Est-ce que explicitement vous avez des points de vue opposés ou c'est simplement que seulement certains le citent?
Voilà.
J'insiste là-dessus parce que encore une fois, hein, une des fonctions du travail en grand groupe, c'est qu'on mette des mots sur des choses qui sont peut-être implicites et évidentes, mais vous allez voir que j'hésite jamais à faire le naïf sur une question, à faire qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on se dit. Parce que il n'y a rien de pire pour nous que d'en rester aux implicites. Parce qu'on croit qu'on a tous les mêmes implicites, or ça n'est pas vrai. Donc c'est important qu'on se fasse signe hein, là-dessus.
Oui, d'ailleurs on avait travaillé un petit peu comme ça sur ce qui faisait obstacle, c'est-à-dire qu'on a repris... réponse par réponse pour voir ce qui n'apparaissait pas entre les lignes, quoi. Ce qu'on pourrait traduire comme implicite, ce qui n'apparaissait pas, c'est pour ça qu'on l'a nommé. Ça, c'était pour la première question.
Du coup, mais je crois que j'en ai oublié, excuse-moi.
L'image de l'enseignant, l'image du travail de l'enseignant, je traduis comme ça, le rôle des parents dans l'école, et puis... la formation didactique.
Est-ce que tu peux redire de manière un peu plus explicite le petit bout de débat qu'on a eu quand on en a discuté dans le groupe? Je voudrais qu'il soit bien remis.
Sur la deuxième, qui est en fait la troisième question, excusez-moi, c'était les évolutions notables vous semblent-elles visibles dans les pratiques pédagogiques? Il y a l'évaluation, comme vous aviez dit, mais surtout évaluation des compétences. Et du coup, là, après, sur les compétences, l'apprentissage par compétences, ça n'apparaît que dans la première question, apprentissage, sur une personne qui parle d'apprentissage par compétences. Dès qu'on aborde le mot compétences, on n'a que évaluation des compétences, mais jamais à aucun moment sur l'apprentissage. Donc, où ça se met ?
Et donc, on va le prendre comme un signe pour le coup. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, on penserait des choses aussi dramatiques que ça, mais on va le prendre comme un signe. C'est-à-dire, quand on parle compétence, on parle évaluation plus qu'apprentissage.
Oui.
Et du coup, à gauche, on va mettre évaluation, dans les évaluations notables, et puis à droite, ça fait débat. Est-ce que finalement, les compétences, ça s'enseigne ?
Ensuite, on a comme une évolution positive, et j'y reviendrai dans une minute, comme une évolution positive, on a la progression des apprentissages. Sauf que ça n'est cité qu'une fois. Et là, c'est une évolution positive. Mais, quand on regarde l'ensemble des réponses de cette question numéro 3 sur l'évolution notable, on note bien de temps en temps quelques évolutions positives, mais néanmoins, il y a toujours quelque chose de négatif qui est cité. Par exemple, il y a le fait qu'on n'est plus sur des apprentissages, oui, mais quand même, on est sur de la primarisation. Donc, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui fait consensus ? C'est une évolution positive ou bien est-ce que ça fait débat parce que c'est aussi quelque chose de négatif ? C'est un vrai problème, là. Et c'était l'objet de... c'était pas l'objet de notre débat, parce que je me souviens. Après, il y avait, sur les obstacles, il y avait beaucoup de mise en œuvre... comme le langage, comme les compétences, sauf que à aucun moment on ne cite les contenus didactiques. De nouveau, ça revient, c'est que les gens ne parlent pas en évolution notable sur la formation et tout ça. Donc il y a bien une mise en œuvre. On dit bien qu'on on fait du langage ou on fait de la phonologie, par exemple, mais on ne parle pas en évolution notable sur l'apprentissage didactique, enfin sur le contenu didactique de ce domaine. Je ne suis pas sûre de me faire bien comprendre.
Ben, de moi, ça va, puisque j'étais là, mais c'est des autres. Donc, moi, ce que j'ai compris du petit bout de débat qu'on avait eu tout à l'heure, c'était... Bon, les connaissances didactiques des enseignants, c'est quelque chose de très important. Donc quand on dit connaissances didactiques, ça veut dire connaissances disciplinaires sur comment ça se construit le langage, éventuellement connaissances en psychologie sur qui a dit quoi sur cette question-là. Et donc à partir de ces deux contenus, capacité à organiser des situations d'apprentissage en s'appuyant sur ces connaissances qu'on va appeler didactiques. Mais si Yves Rother était là, je pense qu'il nous mettrait les coups de pied. Donc, les connaissances disciplinaires et les connaissances sur l'apprentissage pour aider à construire des situations de classe. Bon, ce qui a étonné les collègues, c'est que vous ne citiez qu'à la marge l'importance de ces connaissances dans la tête des enseignants pour être capables de faire ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire, par exemple, apprendre à parler à tous les enfants. Et donc, la petite discussion qu'on avait, c'était « Oh, mais c'est parce que les collègues, ils ont rempli le questionnaire un peu vite fait, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis ça, mais sinon, tout le monde serait d'accord. » Et la petite discussion que j'avais avec les collègues, c'est que je pense pour souvent travailler avec des conseillers pédagogiques ou des inspecteurs, que c'est assez rare que la focalisation du travail collectif, par exemple en animation pédagogique, se fasse sur ces choses-là. Sinon, vous connaîtriez mieux Elisabeth Nonon. Ce que le symptôme, si vous voulez, il est que dans ce que vous citez comme apport de recherche, vous citez un certain nombre de gens. Et je peux le dire, parce que je le dis en toute tranquillité, hein, parce que l'importance des travaux qu'a fait Elisabeth sur cette question-là et le fait que vous ne la citiez pas explicitement comme étant une de vos références du panthéon de la recherche sur le langage à la maternelle, fait que pour moi, c'est comme un petit indice. Sans vouloir vous avoir l'air de je sais pas quoi, de vous prendre en défaut ou de choses comme ça. Mais il me semble que les connaissances des enseignants des conseillers sur toute la recherche en didactique en particulier est quelque chose qui est excessivement compliqué à mettre en œuvre. Enfin, les appuis dont disposent les métiers intermédiaires, les conseillers, les formateurs, les inspecteurs, sur les questions de la diffusion des savoirs de recherche en didactique. Vous avez entendu combien de fois ce matin Elisabeth a cité Repère avec un S. Je ne sais pas si on est beaucoup à savoir exactement, parce que c'est vraiment tout un univers qui est très 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 loin de nos contingences ordinaires. Et le dire, c'est pas dire simplement qu'on fait pas bien son travail. C'est simplement que ce sont des univers professionnels qui ne se rejoignent que trop peu. Enfin, trop peu, c'est idiot ce que je dis. C'est pas que ça soit trop passé, c'est que c'est comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on le sache et qu'on le considère comme une situation ordinaire. Il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou si c'est mal, c'est de dire que, effectivement, voilà, on pourrait citer Reuter, hein, aussi bien qu'Elisabeth Nonon, mais je veux dire, tous les savoirs qui sont produits à Théodile, par exemple, ben, c'est des savoirs qui sont, à mon avis, très très importants et qui sont moins médiatisés que d'autres. Et donc c'est la preuve que, voilà, j'arrête là mon laïus, mais il me semble que pour moi cet indice-là, il me saute aux yeux quand je lis les réponses du questionnaire. C'est pour ça que ces réponses, elles me semblent super importantes, qu'on s'appuie déjà sur ce travail réel. Donc, pour finir, est-ce que les connaissances didactiques des enseignants, c'est quelque chose d'excessivement important pour faire réussir tous les élèves ? Est-ce que nos deux intervenantes, elles ont un petit bout de manière de penser là-dessus ? Est-ce que c'est très important que les enseignants aient des connaissances didactiques plus développées qu'elles ne l'ont pour faire réussir les élèves ? Ou alors, on pourrait aussi tenir le fait que, non, il y a juste les chercheurs qui doivent produire les savoirs, puis après, les enseignants, ils n'en ont pas besoin pour enseigner.
Et une vertu, si je crois que c'est aussi aux chercheurs à penser la façon dont les choses qu'ils ont pu savoir ou construire modestement peuvent devenir des outils. Et donc, mais le problème, donc je crois que c'est pas parce qu'on sait des choses sur la façon dont l'enfant acquiert le vocabulaire, qu'on sait des choses sur le vocabulaire, par exemple, que aussitôt les enseignants vont corriger. Je parle du vocabulaire parce que bon là, je pense que c'est un des points où vraiment il y a peu de savoir encore connu et où on a des images assez fausses de ce que c'est que d'apprendre des mots. Mais c'est pas parce que il y a des savoirs qui sont là-dessus que automatiquement ça va changer. Je crois qu'il faut essayer, mais c'est pas le lieu évidemment ni dans les publications. Il y a un problème de réseau de publication aussi, hein. C'est-à-dire que dans certains réseaux, certaines revues, certaines filières d'écriture, de parution, on ne peut pas faire ce travail-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout de suite passer à la transformation en outil. Je ne sais pas si je suis claire. Hein. Même Repère. Repère, à l'œil fixé sur sa classification, c'est une revue didactique, mais Repère a l'œil fixé sur sa classification dans les revues. Vous savez, on est revue A, de niveau A ou de niveau B. Si c'est C, si on écrit dans des revues de niveau C, jugé comme tel, on n'est pas considéré comme chercheur publiant. Hein. Ce qui fait que, par exemple, il y a une équipe que j'ai été amenée à évaluer ce que j'ai raconté, à Lyon, où la partie de l'équipe qui a beaucoup d'enseignants, dont je sais qu'ils font un énorme travail avec des enseignants, mais qui publient dans les cahiers pédagogiques ou des revues comme ça, qui ont un impact très fort pour les enseignants, ça n'est pas compté comme une publication. Hein. Donc, vous savez qu'il y a des logiques comme ça qui fait que les chercheurs écrivent dans telle ou telle revue. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai pas pu le faire. Mais ce qu'il faut dans les formations, par exemple, c'est assumer en partie le travail de que des savoirs deviennent des outils. Alors, c'est pas les outils tels que les enseignants vont pouvoir les faire, mais par exemple. Les savoirs j'ai été amenée à travailler sur la notion de progression. Par exemple, au ministère, je me suis aperçue qu'il n'y avait rien vraiment intéressant sur la progression. Il y a des savoirs, mais ce n'est pas parce qu'on sait à tel âge, comment, à tel âge, les étapes, etc., que ça permet de penser une progression. Et je crois qu'il faut que les chercheurs s'interrogent un peu sur ce que ça serait qu'une progression. Et quel statut on peut donner au savoir. Donc,
J'ai essayé de dire que, par exemple, il y a des savoirs pour savoir l'ordre de difficulté ou le coût dans l'acquisition du langage. J'ai pas beaucoup eu le temps d'en parler parce que j'étais... comme quoi, apparemment, on peut ne pas se rendre compte, sauf que, bon, souvent, les enseignants ont l'intuition, mais pas forcément, que des choses qui ont l'air très, très proches au point de vue du langage, pour la compréhension, sont en fait très différentes au niveau du coût. Alors, je vais parler un petit peu de l'ordre des mots. Là, il y a des savoirs, si vous voulez, sur... Selon la place thématique, ce n'est pas du tout le même travail d'utiliser un mot en position thématique ou en position prédicative, c'est-à-dire après. Bon. Il y a du savoir, mais si ce n'est pas ça qui doit être directement un outil avec les enseignants. Le problème, c'est que les structures de travail dans la masterisation et dans les conditions de travail des IUFM, du master et de la recherche, font qu'il y a moins en moins d'espace. Moi, je l'ai fait beaucoup, mais maintenant, ça fait des années que ça n'existe plus, ce travail de transformation ensemble d'outils. C'est-à-dire faire des listes, faire des indicateurs, essayer de construire des progressions, enfin, des éléments de progression. Il faut un certain temps, hein, c'est pas les chercheurs qui peuvent le donner. Donc il faut une élaboration des choses qu'on sait comme outils. Sinon, ça devient ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'il faut faire. L'histoire de la phonologie, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Bon, j'étais un peu longue, mais c'est un de mes grands soucis. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui restent infécondes. Parce qu'il y a cet espace d'élaboration qui est de plus en plus rare dans l'institution.
Est-ce que, Catherine, est-ce que tu as un point de vue là-dessus sur est-ce que les compétences didactiques des enseignants, les compétences sur les savoirs que maîtrisent les enseignants, c'est quelque chose qui est pour toi, tu le mets tout en haut ou au milieu de ce qui semble nécessaire qu'ils maîtrisent pour faire leur travail?
Moi, je vais peut-être regarder de l'autre côté, c'est-à-dire on est avec des enseignants qui ont tous les jours comme première curiosité de préparer leur classe pour le lendemain avec des élèves qui sont souvent différents les uns des autres, on l'a vu. Et donc, on se retrouve à différents moments de la chaîne professionnelle des enseignants sur des diversités, me semble-t-il, quand même assez importantes. Et on fait quand même le constat que les connaissances fondamentales sont parfois très éloignées d'enseignants qui sont en train d'enseigner ce jour dans la classe. Alors, comment faire venir ce savoir dans la classe ? Effectivement, je crois qu'il y a quand même une notion importante, c'est laisser un petit peu de temps au temps. La recherche est quelque chose de très dynamique et qui arrive à des sommets parfois. Et entre le moment où l'information est donnée et où cette information va être digérée et apportée dans une classe, il peut se passer un certain temps. Je pense aux ateliers d'écriture, par exemple, Garcia Deban, il y a déjà de nombreuses années. Les premières fois qu'on a entendu ce discours-là, il y a certains enseignants qui s'y sont lancés automatiquement et très rapidement. Il y a eu des productions dans les classes autour de cela. Pour d'autres, il a fallu un certain nombre d'années. Alors, comment le mettre au cœur de notre enseignement? Nous, on est parfois... c'est un peu difficile, hein, dans une animation pédagogique. Si on se met à apporter beaucoup, beaucoup de théories, très vite, on lâche notre public. Alors, à quel moment intégrer ces notions? Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que déjà le formateur soit au courant de ce qui se passe, de tous ces courants, de toute cette réflexion... C'est déjà pas mal. Et savoir après comment ça se répercute dans les classes, on va voir des générations, j'allais dire, de maîtres un petit peu différents. On a ceux qui vont se lancer dans un CAFIPEM et qui vont avoir besoin de cette théorie très vite. Et puis, on sait très bien qu'il y a des parcours complets d'enseignants pour lesquels cette réflexion, elle ne va plus trop réapparaître tout au long de leur professionnalisation, hein. C'est compliqué. C'est très compliqué.
Elle n'est pas tant de donner un SMIC culturel aux enseignants qui n'ont pas le temps d'aller à l'université. Quel rôle... Alors, je suis formatrice, j'anime un CAREP et j'ai un CAFIPEM et j'ai été maîtresse de maternelle longtemps. Enfin bon, voilà. C'est l'âge qui fait le parcours. Et effectivement, la question que ça me pose, c'est quel est notre rôle de passeur? Quels sont nos outils, nous, formateurs, pour effectivement pas prendre nos collègues pour ceux qui pourraient pas et nous on aurait le savoir, comment on peut construire ensemble à partir des questions qui se posent de terrain, on en parlait dans notre groupe, je vais pas divulguer ce qu'on a fait, mais à partir de la question de la formation et des outils de la formation sur le travail, sur la les représentations, de là où on part, etc., pour effectivement à un moment donné pouvoir partager ce savoir qui va questionner nos pratiques. Mais c'est vrai que si, comment dire, faire une pratique descendante du savoir, ça sert à rien. Je pense qu'on est d'accord.
Ne serait-ce que parce que de toute façon, la recherche ne se pose pas forcément des questions d'enseignement.
De toute façon.
Donc,
oui.
Par définition.
Donc, comment on peut faire et là, c'est vrai que je plaide un peu pour le rôle que je peux tenir, ou on peut tenir pas mal dans la salle, mais qui est un rôle un peu aussi en danger en ce moment, qui est ce rôle de formateur. C'est quoi d'être formateur? C'est quels outils on utilise? C'est quoi la formation de formateur? Enfin bon, je pense qu'on est un peu là pour ça en 4 jours, mais.
Moi, j'avais envie, à travers ce que j'ai entendu, là, d'Elisabeth, quand tu disais chercheurs, nous les chercheurs, mais. Tu parlais de quand tu étais formatrice en UFM aussi. Donc, il y avait cette jonction entre tes travaux de recherche et puis la formation que tu pouvais dispenser en UFM. Et j'ai un peu la métaphore d'une chaîne qui aurait des maillons. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un maillon qui serait plus faible que l'autre pour assurer le continuum entre une circulation de savoir autour d'une chaîne? Est-ce qu'il manque? Est-ce que pour arriver au troisième maillon, il faut passer par le deuxième. Quel est-il à travers ce que vient de dire Joël, hein, Isabelle, c'est un peu aussi à la fois dans le contenu de formation, mais c'est aussi la transmission et l'élaboration. Voilà.
Je vous propose qu'on continue notre petit déroulé. Mais on commence à être un peu dans le cœur des sujets. On a encore un groupe qui normalement devait être sur la question 1, sur les points forts et les réussites, mais on n'est pas obligé de faire dans l'ordre, hein. C'est juste que je note qu'on a ça, et puis on écoute les uns et les autres. Vous nous précisez bien de quelle question vous parlez, s'il vous plaît.
Alors, il s'agit de la question 3. Donc, ce qui nous a semblé être un point de convergence, c'est l'évolution du travail des élèves sur fiche, plutôt vu comme un point négatif, c'est-à-dire au pire un constat, mais c'est quand même pas mal relevé comme un point négatif. Un autre point peut-être de convergence, là aussi parfois dans le constat, c'est l'entrée très précoce dans l'écrit, enfin plus précoce dans l'entrée dans l'écrit, et souvent étant mis comme trop précoce. Alors, toujours dans les points de convergence, on a noté quelque chose qui est finalement dans les évolutions qui se font, on a un certain nombre de constats, et parmi les contributeurs, il y en a beaucoup qui ont utilisé l'expression au détriment d'eux. Ça revient plusieurs fois, 3 ou 4 fois, je crois. C'est-à-dire que finalement, c'est pas forcément vu comme un point négatif que d'avoir fait rentrer l'évaluation, d'avoir fait rentrer l'écrit, d'avoir fait rentrer ceci ou cela, mais c'est toujours au détriment d'eux. L'écrit au détriment de l'oral, l'évaluation au détriment des apprentissages. Et ça pose aussi, je pense, la question là, de ce que disait ce matin Elisabeth Nonon sur la question du dilemme, quoi. C'est-à-dire qu'on est, on est toujours dans ce dilemme, quoi. Et avec ce sentiment que les enseignants sont probablement démunis pour trancher, en fait. Enfin, bon, je ne sais pas. Voilà. Alors, il y a des points qui, à notre avis, posent débat, là, enfin, font débat. C'est l'évaluation. Et, mais il faut rentrer un petit peu dans le détail, c'est-à-dire que, d'un côté, elle paraît trop lourde, trop précoce, c'est-à-dire que là, c'est ce que je disais tout à l'heure, au détriment des temps d'apprentissage. Donc là, c'est vraiment sur les temps d'évaluation, hein, qui sont lourds. Mais en même temps, c'est vu comme un apport un petit peu structurant du repérage des difficultés des élèves. Donc là, c'est, enfin, l'évaluation, je veux dire, dans sa globalité, fait vraiment débat. Un autre point qui fait débat, c'est la primarisation des apprentissages, qui est plutôt vu comme un point négatif par rapport à la précocité certains apprentissages, mais qui par ailleurs, là aussi, apporte de la rigueur. Enfin, c'est plutôt vu comme un point positif, rigueur des apprentissages, la programmation, progression. Mais là, c'est toujours au détriment d'eux, quoi. C'est-à-dire que on avait cette idée de libre cours, de self-service, je ne sais plus, à un moment, il y a cette expression un petit peu de self-service, des apprentissages, et qui a été, auquel on a substitué plutôt une rigueur, une progression, une programmation des apprentissages. Voilà, et ça semble faire quand même débat.
Alors, nous, on avait travaillé donc sur ce qui nous semblait être les besoins de formation prioritaire des enseignants. Nos auteurs étaient très nombreux à pointer des besoins en termes de développement de l'enfant, avoir des connaissances sur la psychologie de l'enfant, le développement psychologique, développement psycho-affectif, etc., très très nombreux. Et quand ils ne demandaient pas ces besoins en formation-là, ils demandaient des besoins sur des connaissances disciplinaires. Alors, on a déjà abordé un petit peu la question sur le langage, mais ça allait du langage à l'EPS, aux arts, aux maths, aux sciences, toutes disciplines confondues. Autre chose qui était un point de convergence qu'on a trouvé chez plusieurs, c'était le fait de former les maîtres à la construction des apprentissages, plus généralement, au-delà des connaissances, on va dire, si ça peut se dissocier. Et puis, chez plusieurs personnes, on a ressenti le besoin de former les maîtres à l'analyse de leurs pratiques. C'est revenu 3-4 fois, à partir de vidéos, à partir d'échanges de pratiques. Et pas vraiment de divergence.
On engagera la discussion derrière. Mais merci de la concision avec laquelle vous travaillez, ce qui va nous permettre de pouvoir discuter.
Donc, nous avions aussi la page 4 à analyser. Alors, je crois que le consensus s'est aussi fait autour de quelle connaissance de l'enfant, le langage, bien évidemment, et peut-être le point sur lequel la discussion a porté, c'est les mathématiques au service de quoi à l'école maternelle. Alors, le deuxième point sur lequel le consensus s'est fait, c'est le côté inégalitaire, enfin je sais pas comment formuler ça, c'est quelle compréhension, oui, justement de la construction des inégalités à l'école. Alors le point qui a fait débat, mais bon, c'était peut-être pas vraiment qui nous a interrogé, c'est la prise en charge de l'hétérogénéité. Est-ce qu'il fallait une formation plutôt axée sur la didactique? Une meilleure didactique permettrait-elle de prendre mieux en charge l'hétérogénéité des élèves? Et l'autre question, c'était, est-ce que, au lieu de la didactique, est-ce qu'il vaut mieux pas regarder du coup la posture et le regard qui est porté, les représentations qu'ont les enseignants des élèves? Donc deux entrées peut-être en formation différentes. Oui, la question du protocole de formation.
Ça reprend ce que viennent de dire le groupe d'avant sur les outils, le travail sur les représentations, le travail sur l'analyse de sa propre pratique, les gestes professionnels.
Oui, mais au sein du groupe. Ouais.
Ah, mais il y a des groupes qui sont plus ou moins bons dans la synthèse. Hein. Il y a des gens qui restent très très près de la consigne, d'autres qui s'en éloignent. Bon, ça c'est la gestion de l'hétérogénéité aussi, hein. On est obligé. Non, je blague, mais c'est très intéressant de voir comment chacun se réempare des tâches. Hein. Et on voit bien comment à chaque fois... les deux manières de faire amènent quelque chose d'utile. Ouais. Comment elle appelle ça, les marginaux positifs, c'est ça? Les délinquants positifs.
Alors, les délinquants positifs se sont un peu interrogés sur la page 5, mais très peu. Le consensus qui a été dégagé, c'est le manque de pilotage à tous les niveaux. Donc, un petit peu la notion de flou. Et peut-être le point qui a fait débat... mais peut-être à creuser, parce que par manque de temps, on n'a pas pu plus investir cette réflexion, c'est les évaluations. Quels usages, quelles répercussions? Mais je vais laisser la parole pour la page 5.
concernant ce qui est partagé, donc on est toujours sur la page 5, on n'a pas parlé de manque de pilotage, mais plutôt de disparité dans le pilotage par les IEN maternelles et les DASEN. Et de ce fait, sur le terrain, une connaissance ou une méconnaissance de ce personnel par les enseignants. On a aussi constaté que quand le pilotage était fort, soit par les IEN CCPD, soit par les IEN préélémentaires, il y avait une existence de la formation aux enseignants et une production de ressources par Internet ou autre. Donc ça, c'était plutôt au niveau du pilotage local. Et au niveau du pilotage national, ce qui fait débat, en fait, c'est l'absence de consensus sur l'évaluation à l'école maternelle entre la DGESCO et l'IGEN.
Tu peux traduire pour que les gens qui ne connaîtraient pas ces méandres-là, tu peux juste dire ce que tu entends par là, et après, ça n'engage que toi.
Alors, en fait, ça donne l'impression qu'il y a une différence entre ce que la DGESCO attend, puisqu'elle mesure l'efficacité et la qualité de l'école maternelle, et les IGEN, qui est une instance plus de recherche, qui donne des pistes de réflexion au service des IEN, des enseignants et par conséquent des élèves. Et donc, ce qui nous semble apparaître auprès des enseignants dans les classes, c'est essentiellement la position de la DGESCO et donc, du coup, quelque chose d'assez négatif dans ce qu'on peut lire dans les propositions.
Vous aviez une autre commande ?
Oui. Alors, c'était concernant les apports de la recherche. Donc, il y a déjà plusieurs choses qui ont été précisées tout à l'heure. Par rapport aux formateurs, on constate un problème de neutralité par rapport aux chercheurs. Comment présenter les recherches aux enseignants tout en restant neutre sur ce qu'ils proposent?
Et pourquoi il faudrait qu'ils restent neutres?
Je vais prendre un exemple précis. Est-ce que je présente Bricio contre Charnay ou est-ce que je présente et Bricio et Charnay et que je laisse les enseignants construire eux-mêmes ce qu'il y a à construire derrière? On a constaté ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire la méconnaissance de chercheurs au profit des vedettes, puisqu'on retrouve les mêmes noms pratiquement dans toutes les cases. On peut aussi se poser la question par rapport à ce qui est proposé de savoir ce qui est de l'ordre de la recherche et ce qui n'est pas de l'ordre de la recherche. On a Montessori, Freinet, qui est proposé aussi bien que Seb ou que Boisseau. Donc, est-ce que toutes ces personnes font partie de la recherche? Comment est-ce qu'on les place et comment ils peuvent nous aider dans les pratiques ensuite? Et du coup, se pose aussi le problème de l'articulation entre la théorie et la pratique. Et par rapport aux chercheurs ou pas qui sont proposés, on peut constater un peu que les enseignants sont centrés sur des idées de chercheurs qu'ils peuvent réinvestir dans leur classe. Et quelquefois à bon ou à mauvais escient. On a déjà parlé de Sylvie Seb, mais on peut aussi parler de Boisseau, par exemple.
C'est qui le bon et le mauvais, alors?
J'ai pas parlé de bon et de mauvais.
C'était une boutade, hein. C'est juste pour rire.
Je ne les ai pas opposés comme Bricio et Charnay. J'ai juste parlé de Boisseau et de Seb. Et effectivement, ce qu'on constate dans les pratiques sur le terrain, c'est... Est-ce que des outils bien ficelés sont réellement la réponse
Tout ça, je laisse dans la première colonne, là, ou ça discute? J'ai mis tout dans la première colonne au fur et à mesure, mais bon, tu vas me dire que ce n'est pas ton problème. Cette question, en tout cas, de la production d'outils par rapport à la recherche, elle est très forte, hein, puisque si je mettais deux positions caricaturales, il y aurait les chercheurs qui disent les outils, c'est pas mon problème, puisque moi, je fais de la recherche, et donc j'essaie de comprendre un certain nombre de choses, et d'autres qui diraient il n'est de bons chercheurs que ceux qui sont capables de produire des outils efficaces pour les enseignants. La preuve, j'ai fait un outil et donc il suffit de suivre mon outil à la lettre pour que les problèmes, sinon disparaissent, soient fortement réduits. Je caricature, ces deux positions-là n'existent pas, bien sûr, dans leur extrémité, mais on pourrait mettre quand même des noms. Rien d'en faisant débat dans votre...
Non, on était assez d'accord sur...
C'est toujours difficile d'arriver après quelqu'un qui a eu la même question que nous, parce qu'on va avoir l'impression de répéter.
Nous, on a eu du mal à être des bons élèves et à rentrer dans les cases. Parce que est-ce que l'absence de parole vaut contrat, enfin, est-ce que parce qu'on ne dit pas quelque chose, on n'est pas d'accord avec, on n'en sait rien. En gros, ce qu'on a constaté quand même, c'est qu'il y avait deux points de vue de par rapport à la recherche. C'était un besoin d'apport didactique qui mettait souvent les enseignants et les formateurs face à des contradictions dans les résultats des recherches, ce qui donnait aussi une espèce de statut de vérité désincarnée. C'est-à-dire que quand on veut rendre son propos légitime, on y accroche, c'est pas moi, c'est les chercheurs. Et que ça donne un poids très fort aux propos qu'on peut avoir dans les formations. Et il y avait un autre pendant qui apparaissait beaucoup, c'était la relation donc avec le terrain. Soit les recherches qui sont menées expérimentalement sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on a évoqué, entre autres, l'expérimentation autour du CP, entre des protocoles expérimentaux et après des propositions de mise en œuvre dans les classes qui s'inspirent de ces protocoles, quel est l'espace ? Comment on s'en saisit sans fabriquer des usines à gaz qui font que les enseignants ne nous laissent plus entrer dans les classes après ?
Tu peux préciser ce que tu indiques par expérimentation CP, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde parle la même chose.
Alors l'expérimentation CP qui a été conduite dans l'ISERS et qui a été proposée dans l'Académie du Rhône l'an dernier, suivant un protocole très précis, hein, d'entraînement. Le principe, c'était de proposer des entraînements ciblés, rigoureux, par petits groupes, adaptés au niveau des élèves. Hein. Donc très complexe à mettre en œuvre en classe, parce que ça demandait vraiment de faire appel à toutes les forces vives et vaillantes qui étaient encore présentes à l'école, qui était au départ faite pour les réseaux éclairs, hein, puisqu'on a du personnel supplémentaire qui permet de le mettre en œuvre, qui s'est fait un peu partout, pour finalement des résultats au bout du compte pas si évidents que ça. Donc on a un peu accusé l'évaluation de ne pas avoir été assez efficace. Et que le deuxième temps de cette expérimentation, ben, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans les classes maintenant et comment on met en œuvre dans les classes une autre façon d'organiser l'enseignement de la lecture à partir de ce qui a été fait. Voilà, c'est d'autres précisions. Enfin, je ne sais pas si.
Mais ce travail, l'exemple que donne la collègue me semble tout à fait emblématique parce que il illustre une situation concrète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de décideurs qui considèrent que la recherche a déjà produit des savoirs qui sont évidents. Hein, c'est ce qu'on appelle en anglais « evidence-based », c'est-à-dire il y a des études qui montrent que tel résultat de recherche aujourd'hui est inattaquable. Exemple, si vous voulez développer telle compétence chez des élèves à 5 ans, alors il faut faire ça. Donc, au nom de ça, on a aujourd'hui un certain nombre de propositions, mais je les prends avec beaucoup de mesure, parce que si effectivement il y a des résultats de recherche qui sont suffisamment robustes pour ne pas être contestés, alors la question de la diffusion de ces résultats de recherche peut être quelque chose qui est légitime du point de vue de l'institution. Nous savons que, donc, nous agissons. Et ce qu'on voit effectivement, c'est qu'au nom de ces principes, on voit aussi un certain nombre d'expérimentations qui sont du coup diffusées en utilisant toutes les ressources. Et on voit bien que dans les départements dans lesquels on les accompagne, bon, on est quelques-uns ici à avoir suivi ça à différents niveaux, eh bien, ça a des effets tout à fait paradoxaux, mais tout à fait intéressants aussi. C'est-à-dire que il y a des enseignants qui disent, mais attendez, moi, si on m'accompagne avec de la formation au quotidien et de l'appui sur grande section CP, pour apprendre à parler et à écrire à mes élèves, mais je suis tout à fait preneur. Et donc, ce qu'on va évaluer, en fait, c'est l'engagement des personnes dans ce travail collectif. Mais, après tout, si on a des résultats qui nous montrent que quand les personnes, quand les, ceux qui travaillent sont accompagnés par des professionnels et puis que ça a des impacts sur les élèves, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que c'est plutôt ce que les uns et les autres ici on réclame.
D'autant plus que ce protocole nécessitait d'avoir du personnel supplémentaire, c'est-à-dire que, en fait, il a fait la preuve qu'avec un enseignant de plus dans une école, on arrivait à des meilleurs résultats. Je ne pense pas que ça avait été prévu comme ça au départ. Comme... Enfin, moi, j'allais dire, après, ce qui me semble, pour avoir accompagné des collègues sur le terrain, c'est ce qui est intéressant, ce n'est pas tant les résultats de la recherche et l'armature que ça nous donne, que ce temps de réflexion qu'on a avec des collègues. Et on s'est donc posé la question de la place du formateur par rapport à la recherche. Est-ce qu'on était un média? Est-ce qu'on était un fil rouge? Est-ce qu'on était, voilà, est-ce que on devait partir de la réalité du terrain des enseignants que l'on fréquente et puis éclairer leur réalité avec de la recherche ou avoir un autre point de vue descendant, je pars de la recherche et puis faites-en ce que vous voulez. C'était quand même cette attitude à avoir, voilà, est-ce qu'on est, de quel côté on est aussi nous? On n'est pas du côté de la recherche, on est du côté du terrain. Et voilà, quel est notre rôle? Est-ce qu'on est des médiateurs? Est-ce qu'on est là pour faire de la cohérence? Alors que parfois, il n'y a pas de cohérence à avoir dans des points de vue qui s'opposent.
Est-ce qu'il y aurait, ça a été expérimenté dans l'Ain aussi, ce travail-là? Est-ce qu'il y aurait des formateurs de l'Ain qui voudraient dire un petit mot sur cette question? Non, mais pendant qu'on est là, ça vaudrait le coup que tu donnes aussi ton point de vue? Parce que, il me semble, enfin, puis ton objet de travail, ça vaudrait le coup que tu en parles une minute, si tu veux bien.
C'est pour ça que j'étais en pleine note. Donc, je suis PEMF dans une classe de maternelle et je suis engagée cette année dans le projet Langage qui a été présenté dans l'Ain avec une sollicitation d'une 220 classes et avec la demande pour ce qui était de nos classes, nous en tant que formateurs, c'est d'avoir à la fois le regard de l'expérimentateur dans la classe et le regard du formateur puisqu'on a les deux rôles. Voilà. Et en parallèle à ça... je suis engagée cette année dans une formation de formateurs et mon objet de travail porte sur ce projet qui a été redéfini dans l'Ain et qui a été appelé programme langage et non pas programme parler. Donc, à méditer. Voilà. Et donc, effectivement, on est... bon, il y a tout ce qui est à vivre du côté de la classe. Il y a toutes les interrogations par rapport à un protocole et à sa rigueur et à ses objectifs qui nous interroge, et il y a aussi toutes les questions qui viennent d'être évoquées par rapport aux formateurs. Quel rôle on joue, nous, à la fois dans l'accompagnement du programme et à la fois dans l'accompagnement des enseignants. Et finalement, ce qu'on en retire, mais pour l'instant, on est en première année, en phase de découverte, bon, voilà, mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'on en retire, c'est effectivement, on est davantage à s'interroger sur les implications que ça donne au niveau de la discussion, que ça permet de mettre en œuvre quand les enseignants se retrouvent sur les interrogations que ça soulève, presque au-delà des outils qui sont proposés. Donc on est bien dans cette dynamique-là que vous êtes en train de décrire, en ayant quelques mois d'expérience.
Tu voulais ajouter un mot?
Moi, je voulais intervenir aussi, que je vais te passer la parole là par rapport à ça. C'est que pendant 2 ans, là, on a fait une recherche à Mulhouse, qui n'est pas en maternelle, qui est en classe de 6e, où c'était tripartite, effectivement. C'était enseignants, chercheurs et formateurs. Et au niveau des formateurs, il y a eu cette difficulté à trouver une place. Mais en fait, c'est que dans un protocole de recherche, tout le monde se retrouve en posture de recherche. Même aussi le formateur, de là où il est, qu'il adopte une posture par rapport à la recherche en tant que formateur. Je ne sais pas si c'est très clair. Plutôt que de rester à se dire « je suis l'interface entre la recherche et la pratique », c'était « moi, je suis formateur dans un programme de recherche et j'ai aussi une posture par rapport à cette recherche sur le temps de comprendre de quoi je vais pouvoir m'emparer pour en faire des éléments de formation par la suite, de là où je suis. Ils n'ont pas un rôle d'entre-deux.
Parce que du coup, le temps que le micro passe, non mais ceux qui sont déjà venus ici ont l'habitude qu'on tienne ces propos, mais la question de savoir de quel côté tu es quand tu es dans ces métiers intermédiaires, hein, mais y compris que ce soit IUN, formateur à l'UFM, conseil pédagogique, IMF, Cordozo, etc. C'est clair que la question de quel côté tu es, c'est une question qui se pose en permanence et qui se pose pas de manière forcément explicitée. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, à un coordonnateur ZEP, que l'IEN, il est lui aussi pris dans des dilemmes de légitimité entre être légitime du point de vue de l'institution et être légitime du point de vue des collègues, c'est pas quelque chose qui lui saute forcément aux yeux. Et pourtant, on sait quand on accompagne tous ces métiers intermédiaires que les conflits de légitimité et les dilemmes professionnels sont permanents. Permanents. Et le tout est d'avoir des espaces pour pouvoir les travailler et de pas les faire de manière clandestine, mais bien de les faire de manière professionnelle. Parce que, entre une prescription, quelle qu'elle soit, et ceux qui mettent en œuvre cette prescription, il y a, dit-on, nous en tout cas, en analyse du travail, il y a nécessairement un écart. Et on fait toujours comme si ces écarts étaient clandestins, comme s'ils n'étaient pas... Enfin, on ne pouvait pas en parler, quoi. Alors que ça me semblait essentiel, c'est quand on commence à parler de ces écarts entre ce qu'il faudrait qu'on fasse et ce qu'on fait réellement, quels que soient les métiers dans lesquels on est, qu'on commence à discuter sérieusement du boulot. Avant, on ne le fait pas. On fait comme si. Mais évidemment, ça veut dire qu'on ne peut le faire que dans des espaces où on est soi-même en sécurité. Si c'est juste pour se faire dégonder sur tout ce qu'on n'arrive pas à faire alors qu'on devrait être capable de le faire, c'est pas très facile à supporter.
Je trouve que tu as abordé vraiment des choses qui me parlent. Moi, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de très prescriptif, où on n'avait pas du tout de place.
Oui.
On n'avait pas du tout de place de chercheur. On nous a demandé de conduire l'expérimentation. Quand j'ai mis quelques réserves, ça n'a pas été spécialement apprécié. Il y avait des entrées qui étaient privilégiées par rapport à d'autres, notamment l'entrée cognisciences, on va dire, hein, toutes ces entrées-là. Moi, il me semblait qu'on oubliait d'autres entrées qui étaient aussi défendues, sans doute un peu moins haut et fort. Et elles ont été oubliées dans le dispositif. Et ensuite, on ne nous a pas trop demandé notre avis, ni au maître d'ailleurs. Pourtant, on essayait de centrer les formations, moi, dans la Loire.
Voilà,
je te le fais pas dire.
C'est moins bien la Loire, mais bon.
Ça a été très douloureux.
C'est
très douloureux,
en même temps.
Avec des résultats, on disait, avec très infimes. Enfin, nos maîtres qui faisaient partie des classes témoins ont eu des résultats, pour certains, supérieurs aux classes qui étaient dans l'expérimentation. Donc, ils se demandent bien comment et pourquoi. Il se trouve que c'était des gens qui travaillaient aussi en petits groupes, de besoin, avec des outils propres, une réflexion, un travail en équipe que d'autres n'avaient pas. Donc, moi, je me suis surtout centrée sur le changement des gestes professionnels chez ses maîtres.
En tant que quoi ? Tu t'es centré là-dessus ? Juste, tu le dis pour tout le monde, non, parce que tout le monde ne sait pas forcément ton métier. Donc,
alors, en tant que conseillère pédagogique,
voilà, merci.
Désignée pour suivre l'expérimentation. Voilà, le pilotage de l'expérimentation dans la Loire. Et là, par contre, en se centrant sur les gestes professionnels des maîtres, ça, j'ai trouvé ça très riche, parce qu'on peut avoir le même outil et faire deux séquences complètement différentes. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Et là, oui, là, ça a été riche à ce niveau-là. Et cette année, on a une latitude beaucoup plus grande pour le mettre en place comme on veut. À la limite, on ne garde que ce qu'on veut. Et il me semble que là, moi, je m'y retrouve plus, et les maîtres aussi, parce qu'ils rajoutent d'autres choses, d'autres chercheurs qu'on trouvait sans doute moins légitimes dans cette expérimentation.
Mais du coup, est-ce que le dispositif a créé... Malgré tout, hein, on est d'accord, tu nous l'as bien expliqué, est-ce que le dispositif a créé, malgré tout, et peut-être de manière contre-intuitive, des effets positifs ?
Oui, du côté des maîtres.
Exactement. Oui. Moi, c'est exactement l'information que j'ai, y compris du côté du 42. C'est-à-dire, je partage 100% de ce que tu as dit, de ce que nous, on a regardé.
Ce sont des maîtres qui, je dirais, observent davantage leurs élèves. Parce qu'ils se sont retrouvés dans des situations où ils étaient obligés de les avoir en petits groupes. Et ça, ils le pointent tous comme des choses positives. Et ça perdure, ça. Le travail en équipe aussi, autour d'échanges de pratiques des maîtres de CP, ça, c'est des choses aussi qui perdurent.
Oui, moi, ce que j'apporte le micro, ce que j'avais trouvé intéressant dans le même ordre d'idée, dans la recherche dans laquelle j'étais, et même en enseignant, c'est que ça a permis l'expérimentation, de se mettre en situation d'expérimenter quelque chose. Et pour lui, il avait dit, pour moi, c'est du développement durable. C'est-à-dire qu'il a vécu quelque chose dans sa classe qu'il n'aurait pas mis en situation dans l'ordinaire de la classe. et que ça a permis une inflexion positive pour les élèves dans son enseignement.
Juste là-dessus, une petite incise, hein, extrait d'un Spiral 1989. Je vous cite juste la conclusion d'un chercheur qui s'appelle Elisabeth Nonon et qui finit en disant « Que voudrait dire aider à comprendre ?» Et donc tout le travail qu'il y a dans cet article, c'est quoi finalement l'étayage ? Donc je cite que la conclusion là. « Comprendre ce que les élèves ne comprennent pas et élaborer un enseignement qui les aide à comprendre ne peut pas relever du slogan, même s'il est normal que la croyance et les convictions interviennent dans les choix des enseignants. » Et ça continue. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est ça. C'est quel est le dispositif qui va changer la focale et qui va faire que les enseignants, du coup, indépendamment de la prescription pédagogique, se mettent à regarder, et vous avez été plusieurs à le dire, hein, se mettent à regarder les situations différemment. Les élèves, donc, mais les situations aussi. On essaiera de vous montrer dans les 4 jours des enseignants débutants qui font la date, parce qu'on est en train de travailler là-dessus avec Guagou et Seb, et pourquoi les enseignants font ce qu'ils font quand ils font la date. Je pense qu'on va avoir de bonnes engueulades entre nous sur la lecture qu'on fait des situations. La preuve, c'est que quand on a fait ces analyses-là avec des maîtres formateurs chevronnés, eh bien, il y a eu des manières de comprendre ce qui se jouait là qui étaient carrément opposées. Avec des gens qui disaient « Ah ouais, c'est vraiment bien ça » et d'autres qui disaient « Non, mais c'est n'importe quoi ça ». Donc on y reviendra, mais il me semble que c'est cet outillage et la capacité que les gens ont à lire les situations. Et donc, avec quoi on apprend à lire les situations? Avec, bien sûr, les étayages théoriques. Bien sûr que la théorie, elle sert à comprendre le monde, à dire, mais parfois je le regarde par là, parfois je le regarde par là. Où c'est grave, c'est quand les théories, il y a des théories qui sont tellement dominantes qu'on ne regarde plus le monde que d'un côté. Évidemment, quand on ne regarde plus que d'un côté, on ne comprend plus rien au monde. Mais c'est très difficile pour nous de dire, mais finalement, les recherches, elles regardent chacun le monde d'un point de vue différent. Et elles sont prises également, elles aussi, dans des univers idéologiques. C'est-à-dire pas plus, pas moins que les enseignants, les chercheurs sont dans des ressorts idéologiques. Et donc, travailler ces questions-là, même un enseignant de maternelle peut y arriver. Pour peu qu'on lui en donne l'espace.
Oui, donc simplement pour rappeler l'histoire, le programme Parler a débuté dans l'Isère. Et donc on n'en parle plus. Hein, mais c'est donc sur un public d'élèves, j'allais dire, de zones délicates, qu'il a été développé. Et c'est vrai que dans ce département, en tout cas, on s'est centré sur les effets sur les élèves. C'était l'objectif initial. Et en ce qui concerne les effets sur les élèves, malheureusement, on n'a pas pu les mesurer. Voilà. Je m'arrêterai là. Alors certainement que dans les équipes, ça a fait évoluer un certain nombre de choses, y compris les mentalités. Que dans les gestes professionnels, on peut imaginer que les enseignants sont effectivement plus centrés sur les gestes professionnels. Mais en tout cas, sur les élèves, on n'a pas eu des effets vérifiables, ni les effets escomptés. Voilà.
Est-ce que tu me dis, si je me trompe, si je fais une explication, c'est-à-dire... il me semble que dans l'Isère, l'inspection académique a été plus que réservée sur la diffusion du programme Zormann, et que par contre les collectivités territoriales ont été très mobilisées sur l'introduction du programme Zormann. Est-ce que je fais une caricature?
Oui, c'est une caricature, très honnêtement, parce que moi je connais l'histoire depuis le départ, ça fait un certain temps, et donc au départ, ils étaient accueillants. Hein? Donc Lira, c'est en association, tout à fait, c'est en association avec les communes, que ce programme s'est monté au départ. Et pas du tout, il n'y avait pas d'hostilité, non, absolument pas. L'hostilité est venue après, c'est-à-dire après, j'allais dire, la mesure des effets. Hein. Et je crois que, comme du coup c'était assez discutable, effectivement, il n'a plus été sollicité par la suite. Voilà un petit peu l'historique.
Et c'est ce qui est intéressant dans les précisions que tu nous donnes, hein, c'est qu'on voit bien comment, à un moment donné... On est bien, pour vous dire, cette diffusion de recherche autour de evidence-based, aujourd'hui, autour de cette expérimentation-là, elle est dans plusieurs programmes politiques et dans plusieurs programmes de fondations françaises qui travaillent les questions d'éducation. Et pourtant, l'inspection académique du 38 a dit, et légitimement, hein, il ne s'agit pas pour moi de remettre en cause ce qu'a dit l'IA du 38, a dit, au bout d'un moment, on ne constate pas les effets que vous dites, et donc, on préfère investir notre énergie dans autre chose. Et ce qui me semble intéressant là, c'est que bien qu'on ait ces expériences multiples, eh bien, on a quand même toujours des offensives que je vais qualifier d'idéologiques pour dire c'est la seule voie pour améliorer les connaissances langagières des élèves de l'école maternelle. Donc, de l'endroit où je suis, je n'ai pas à dire est-ce qualité si c'est des expériences valides ou pas. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'on mesure les différents paramètres qui sont dans les choses, c'est-à-dire il y a de l'idéologie, les chercheurs eux aussi, et Michel Zorman vient de mourir, mais il a été de ceux qui ont dénoncé bruyamment ce qu'on faisait en son nom, c'est-à-dire que Michel Zorman lui-même a dit « je ne me reconnais pas dans les caricatures qu'on fait de mes travaux ». Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas juste dans pour ou contre tel ou tel outil ou tel développement des compétences phonologiques. Mais on voit bien que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Et comme le disait la collègue Delain tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de voir quel rôle on y joue en étant plus ou moins résistant, engagé, etc. C'est pas forcément l'essentiel, mais de comprendre comment ces choses-là s'organisent. Et il me semble que du coup c'est assez important parce qu'on est dans un moment où on veut faire dire à la recherche un certain nombre de choses et qui, à son corps défendant, peuvent être assez délicates. Vas-y.
Oui, simplement pour reprendre les propos que tu évoquais par rapport à l'inspection académique qui a décidé que l'inspection académique n'a rien décidé. Ce sont les enseignants qui ont pratiqué ce dispositif parlé qui, au bout d'un moment, ont dit « Stop, c'est une machine à gaz !» avec tous les avantages et les inconvénients que peuvent proposer une machine à gaz de cette sorte. Hein. Je crois qu'il y a eu aussi de la part un très très gros investissement de la part des différentes équipes et je faisais partie des joyeux élus qui ont aidé les enseignants sur le terrain, mais je pense que c'était très très lourd comme dispositif. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'à un moment les enseignants ont dit stop, c'est beaucoup trop lourd pour nous à gérer. Il y avait des tas d'outils qui existaient par ailleurs. Hein. Monsieur Zorman avait dit tous les outils existent, ce qui était vrai, les outils étaient déjà en place. Mais dans la mise en place, dans la gestion des outils, dans les groupes qui devaient se faire, il fallait décloisonner, il y avait des tas de choses à mettre en place. C'était très, très lourd à gérer. Voilà. Donc, en fait, l'inspection académique, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Elisabeth, c'est un petit peu, et fort justement, a tenu compte de la remontée du terrain des enseignants qui s'y collaient, entre guillemets, tous les jours, hein, par rapport à ce programme aussi. Hein.
Mais
voilà.
Justement, c'est parce que c'est pour en avoir parlé avec eux qu'effectivement, eux-mêmes sont soumis à une pression considérable de la part des élus locaux, etc., qui disent, mais pourquoi vous ne voulez pas faire ce qu'on vous dit, alors qu'on sait ce qui est bien. Et je trouve qu'effectivement, en l'occurrence, il y a une position courageuse, parce qu'il a fallu qu'elle résiste, pas qu'aux collectivités locales. Et ça dure toujours.
Je crois que c'est une durée de vie de 5 ans, hein, ce programme parler sur les airs. Hein.
On termine ?
Finir par rapport au rapport de ce qu'on a dit dans le groupe, c'était le rapport aussi de la recherche avec l'innovation. C'est-à-dire cette idée aussi qu'il faut toujours être dans l'innovation, de l'innovation à la nouveauté. Voilà, il y a quelque chose à interroger que souvent les enseignants perçoivent dans les apports de la recherche que pour être un bon enseignant, il faut innover. Alors que parfois, il faut d'abord réfléchir. Et l'accompagnement des protocoles d'expérimentation sont intéressants parce que ça donne du temps aux enseignants pour réfléchir à leur pratique. Et il faut redonner de la valeur à la pensée des enseignants, que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans la recherche qu'ils n'ont pas une pensée. pédagogique, même s'ils n'ont pas forcément tous les outils didactiques, toutes les ressources, ils sont capables de produire des pensées professionnelles. Et que voilà. Donc c'était la relation entre la recherche et l'innovation.
On termine, puis je vous proposerai qu'on discute, pour ceux qui veulent, qu'on discute un petit peu cette idée hein, que vient de dire la collègue. Est-ce que l'innovation, c'est un facteur de progrès ?
Bon. Alors nous, sur la question 8, c'était juste un point, on a fait, parce que c'était très ouvert hein, par rapport au point souhaité aborder, une demande, une opinion, de la demande à l'opinion. On a retrouvé les fameuses fiches hein, qu'on avait trouvées déjà dans les autres questions. Et puis aussi la question du nouvel élan pour la maternelle. Ben ça, j'avoue que je ne sais pas, la bête à cornes. Moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas issue de la maternelle récemment depuis les nouvelles réformes. Donc, les nouveaux outils, moi, je ne sais pas non plus ce que c'est. Et l'ouverture sur les autres départements qui ont peut-être aussi d'autres spécificités, d'autres mises en œuvre. Et puis la question qui revient aussi, c'est la question des ateliers. Ça, c'est vrai que c'était autrefois la maternelle se définissait par ses ateliers. Et puis maintenant, la question des ateliers reste ouverte. Est-ce que c'est la meilleure des choses ou la pire des choses ? Donc, question des ateliers qui est remise en cause avec la différenciation. Et puis l'articulation du travail entre les différents partenaires, professeurs des écoles ATSEM, le langage en milieu défavorisé, la maternelle qui soit intégrée dans un parcours. Et puis aussi, moi, c'était ma question, moi, par rapport aux langues vivantes, avec les dispositifs qu'ils mettaient en œuvre pour la première fois, en suivi par les conseillers pédagogiques langues, une initiation, une sensibilisation aux langues vivantes en maternelle. Ça, c'était les points qu'on a relevés de la question numéro 8.
Ce sur quoi on a discuté, c'est justement ce fonctionnement en atelier. En se disant que souvent sur un emploi du temps, on voit inscrit atelier, alors que atelier c'est un dispositif et qu'on a un mot qui donne un dispositif dans un emploi du temps qui est censé donner un domaine de travail. Ou, voilà. Et donc, ça a été aussi l'objet à un moment donné. On avait aussi une commission maternelle pendant laquelle on se réunissait, qui était composée de membres un peu. On regarde ce qu'a présenté Madame Dumas ce matin sur la commission maternelle dans son département, avec des gens qui étaient à la fois médecins scolaires, il y avait des médecins scolaires, une IEN qui pilotait la commission, des PEMF, des PE quand ils arrivaient à être remplacés. Donc c'était un peu épisodique, c'était un peu compliqué pour la continuité du travail, mais il y avait une diversité des personnes, des DEA, et on avait travaillé donc sur des points qui faisaient débat. Donc on s'interrogeait sur le repos, on s'interrogeait sur la place du goûter, on s'interrogeait sur l'accueil, donc tous ces points qui sont spécifiques à la maternelle et sur lesquels on a un mot, mais une diversité de fonctionnement et avec des dérives qui nous semblaient importants peut-être de souligner, mais en disant ce que ça pouvait être plutôt qu'en dénonçant simplement ce que ça ne devait pas être. Et donc, on en était arrivé à la question de l'atelier aussi. L'atelier, pourquoi on l'écrit tel quel sur l'emploi du temps ? Qu'est-ce qu'il recouvre dans la réalité ? Est-ce qu'il y a une obligation de quatre ateliers parce qu'il y a quatre jours dans la semaine ? Enfin, toute cette interrogation-là qui, encore une fois, on nous interrogeait et pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse prédonnée ou préconçue, mais qui reste de l'ordre de l'interrogation.